Un livre des livres, le podcast qui va vous faire aimer la littérature sous toutes ses formes. Lectrice, lecteur, autrice, auteur, éditrice, éditeur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du podcast Un livre des livres, un livre des livres, histoire de faire un petit tour sur la planète de la littérature. En septembre dernier, dans la jolie ville de Niort, n'en déplaise à Michel Houellebecq, s'est tenu un salon du livre et la 9e édition de celui-ci. J'ai découvert l'information, non pas grâce à des affichages, parce que tout ce qui est lié à la culture à Niort sort très peu de l'intramuros, mais grâce à l'autrice Corinne Valade, dont je suis les romans avec passion depuis plusieurs années maintenant. Aussi, lorsque je lis sa publication indiquant qu'elle sera présente sur les lieux du festival à 45 minutes de chez moi, je me suis dit que c'était enfin l'occasion de se rencontrer en vrai. Elle a gentiment accepté de se plier au jeu de l'interview, et je vous propose, sans plus attendre, de l'écouter. Alors, les surprises quand on est chroniqueur, c'est qu'on arrive à avoir des gros crushs avec des auteurs. On les chronique longtemps, on les suit avec passion et parfois on arrive à se rencontrer. Et là, devant moi, j'ai Corinne Valade.
Bon. Youhou !
Enfin, ça y est !
On se voit pour de vrai.
Ouais, pour de vrai. Parce que pour les réseaux sociaux, c'est sympa, mais bon.
Ah, c'était bien aussi, parce que même un livre des livres, moi je le suis du coup. Mais c'est vrai que c'est tellement mieux en direct.
Bah oui, ouais, c'est chouette. Et puis déjà, alors, je te remercie énormément parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert ce festival à Niort.
Oui! Alors un très grand festival avec 120 auteurs, donc c'est pas rien. Moi je l'ai connu par les deux organisateurs, Christelle et Michel Van de Ville, mais je suis toujours étonnée de la bonne ambiance qui règne sur ce salon et surtout du nombre impressionnant d'auteurs très éclectiques. On a de tout, de la new romance, hein, du polar, et puis moi le roman historique. Moins drôle, je suis désolée.
Oh, moins drôle. Là, c'est...
Ah, on tue pas comme dans le polar. Hein.
Ah non, c'est sûr, ça ferait bizarre.
Hein. Ça ferait bizarre. Quoique, j'ai quand même quelques crimes des fois.
Ah, quand même.
Ah bah, dans Danse Néo-Médanse, il se passe des choses.
Ah oui, les auditeurs le savent bien. Alors, même si c'est toujours difficile de pas tout divulgâcher à chaque fois, parce qu'il y a tellement de choses à...
Ah, on va pas spoiler.
Non, faut pas. C'est... Ce serait moche. Hein.
Ouais. Achetez mes livres.
Voilà, exactement. Si vous voulez le savoir, débrouillez-vous.
Voilà, exactement. Non mais...
Alors, on va parler un petit peu de toi, d'accord ? On veut tout savoir.
Ou presque.
Ou presque, voilà, enfin, tout ce qui descend à savoir.
Ah ! Non, je ne divulguerai rien.
Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est ta rencontre avec la littérature, ça s'est passé comment ?
Ouh, ça s'est passé il y a fort longtemps. Alors, littérature est un bien grand mot. J'avais 6-7 ans à peine quand j'ai commencé à écrire des petites histoires avec des livres qu'on me lisait à la maison, comme Le vilain petit canard. Et il se passait toujours quelque chose de triste pour un des personnages, mais finalement, il s'en sortait bien. Et ça, j'adorais. Donc, moi, j'ai écrit des petites histoires, j'ai écrit de la poésie. Et progressivement, je me suis attachée à lire. J'ai beaucoup aimé un livre qui s'appelle... c'est Dan Keller. Et c'est sur son expérience... de mémoire, c'est loin, mais c'est une petite fille qui est née sourde, muette et aveugle. Et elle a réussi à aller vers les autres en apprenant à communiquer d'une manière différente avec les doigts. J'ai trouvé ça génial et je me suis dit, mais quoi qu'il arrive dans la vie, qu'on naisse avec un handicap, eh bien on peut arriver à le surmonter grâce aux autres. Et ça a vraiment été quelque chose de très fort, cette expérience de lecture, et j'ai continué en ce sens. Et de fil en aiguille, j'ai continué d'écrire des poèmes. Par contre, après, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. C'est compliqué hein, quand on doit s'occuper de ses enfants. Hein, t'en sais quelque chose. Combien de temps on passe aussi à s'occuper de nos chères petites têtes. Moi, elles n'étaient pas blondes, mais il a bien fallu s'en occuper aussi. Et puis, ça démange. On a beau raconter des histoires à nos enfants, on a beau se lancer dans les marionnettes. Moi, j'ai été également conteuse parce que j'aime les mots, j'aime les histoires, même pour mes enfants. Et j'ai continué, et puis au bout d'un moment, j'avais envie de travailler les mots autrement qu'en oralité, si bien que je me suis lancée à écrire des histoires complètes, donc des romans. Et les romans, eh bien, qu'est-ce que c'est d'autre que des contes, finalement? Alors des contes, oui, parce qu'il y a toujours quelque chose qui en ressort, qu'on essaye de retenir, et en même temps, j'aime l'histoire. Donc je me suis dit, est-ce que je peux utiliser les deux, c'est-à-dire aimer compter pour que la personne qui est en face retienne des choses comme expérience de vie et apprendre énormément d'histoires et le remettre aussi dans un roman. Et j'ai fait les deux et finalement ça marche pas mal, c'est-à-dire que je travaille énormément l'histoire et ensuite je raconte des destins, des fois inventés, des fois qui ont existé et ça fonctionne exactement comme une conteuse. Ou comme une marionnettiste que je suis aussi.
Oui, c'est un savant mélange en fait de plusieurs compétences en fait et de champs artistiques différents.
Oui, et ce que je trouve extraordinaire justement dans la littérature, c'est qu'on peut utiliser tous ces champs et qu'on doit les utiliser. Il faut absolument, enfin il faut. Moi, j'aime aller vers les autres. Donc le moyen d'aller vers les autres, c'est effectivement de présenter des spectacles, de présenter aux autres des contes, des marionnettes, d'autres histoires, d'être avec les enfants, mais également en EHPAD, d'avoir toutes les tranches d'âge pour avoir tous les retours différents, et ensuite d'avoir un travail solitaire qui fait du bien, parce qu'on a besoin, quand on voit beaucoup de monde, d'avoir de temps en temps des temps à soi, et justement de raconter ce qui s'est vraiment passé dans la vie, d'une manière plus historique, vraiment avec des sujets très forts de notre histoire. Ça peut être la Commune de Paris, ça peut être la ségrégation dans l'armée américaine en France dans les années 50-60, des sujets difficiles, mais qu'on aborde aussi avec une forme musicale. C'est-à-dire que tout ce que nous apportent les autres, tout ce mélange justement de cultures que nous apportent les autres, nous permet d'amener cette diversité dans nos romans.
Mais en effet, c'est quelque chose qui frappe en général quand on lit un de tes romans. C'est ce mélange en fait de plusieurs personnalités, de cultures différentes, d'horizons différents. C'est encore plus dans le dernier. Donc,
ah oui, parce qu'il y a les Afro-Américains.
En plus, on en apprend beaucoup sur ta nouvelle région.
Oui, la Nouvelle-Aquitaine.
Sur l'occupation, oui, de l'armée américaine, comment ça peut structurer un territoire, les relations avec les populations locales. Mais toujours avec cette idée de mettre en avant la différence, parce que du coup, Naomi est frappée par une différence, un choc.
Oui, elle devient Tabayo, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu ailleurs, elle est dans son monde. Mais qui n'est pas dans son monde? Et puis justement, cette différence est intéressante. Pourquoi rentrer systématiquement dans le moule? C'est ça qui me dérange en fait aujourd'hui, c'est qu'il faut rentrer dans un moule. Voilà, on doit produire quelque chose, on doit le faire d'une certaine manière et point barre. Eh bien non, la nature humaine, elle n'est pas comme ça, l'humain, il n'est pas comme ça. On est tous différents et on a tous des envies différentes. Et pourquoi est-ce qu'on devrait faire quelque chose comme tout le monde? Prenons un petit axe à côté et puis allons glaner justement des choses que tout le monde ne connaît pas ou ne cherche pas. Apportons-leur. Un peu comme les contes, quand on raconte des contes à des gens, on leur raconte des contes qui viennent de l'étranger souvent, et même de nos régions, de nos provinces. Mais on s'aperçoit d'ailleurs que ça vient de l'étranger ou de nos provinces, ce sont les mêmes contes. Donc il y a une universalité, et en même temps, dans cette universalité, ce qu'on va chercher, c'est ces petits points que la personne lambda ne va pas aller chercher. C'est cette petite originalité qui fait qu'on peut retravailler dessus. Alors ça paraît peut-être un petit peu abstrait quand j'en parle, mais au quotidien, ça se fait tout à fait bien.
Alors, tout à l'heure, tu parlais de musicalité. Dans ton dernier roman, tu proposes
une playlist.
Une playlist au lecteur, du coup, c'est venu comment cette idée?
Ah, c'est mon éditeur, en fait. Ah, oui, c'est pas moi. Non, c'est l'éditeur, parce que, effectivement, je parle beaucoup de musique, puisque c'est l'histoire du jazz vers le rock'n'roll, et qu'il y a des passages où il y a, de toute façon, souvent, dans nos romans, il y a de la musicalité aussi. Mais quand, en plus, par-dessus, on parle musique, il est important de citer les morceaux, parce que dans ces morceaux musicaux, il y a des choses qui sont essentielles pour moi, comme, entre autres, Strange Fruit, qui raconte vraiment l'histoire de la ségrégation et du Ku Klux Klan. Et de Billie Holiday. Et je crois que ça, ce sont des choses essentielles aussi qu'il faut savoir. Alors, quand on lit le roman, on ne va pas forcément s'attarder sur cette chanson. Mais du coup, si on la met en playlist, les personnes qui vont l'écouter vont se dire « Tiens, elle a été mise en exergue, c'est qu'il y a quelque chose de plus. » Et ils vont aller sur l'histoire de cette chanson. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, et je pense que qui intéressait aussi l'éditeur, c'est de se dire que ça serait dommage de laisser passer le roman sans raccrocher les wagons à ses chansons.
Oui, en tout cas, c'est une expérience assez étonnante, parce que ça se pratique, il y a Michael Mention qui fait ça également dans ses polars.
Oui.
Qui propose une playlist. Alors c'est vrai que quand j'ai découvert ton dernier livre, je fais « Ah, ça c'est rigolo !»
Elle aussi.
C'est marrant, puis c'est vrai que c'est une expérience de lecture qui est assez originale.
Alors Eric Emmanuel Schmidt avait fait ça aussi, et j'avais trouvé ça génial avec Ma vie avec Mozart. Et je me suis dit, mais c'est vraiment un très bon concept, parce qu'on écoute, on lit en écoutant de la musique, et du coup, on ne lit plus de la même manière. On lit avec ses tripes. Donc ça, c'est pas mal.
Ça déclenche d'autres émotions, oui. Plus que les émotions par les mots.
Exactement. Et quand on a toutes ces émotions qui se mettent à pétiller en soi, eh bien, on est beaucoup mieux après la lecture, comme si on avait pris un bon bain, en fait, bain de mer. Ça pétille de partout. Et après, on a envie de continuer. Et ça donne de l'énergie. Je trouve que ça fait du bien. Et lire fait du bien.
Déjà, au départ, ça fait du bien.
Et écouter de la musique aussi. Donc voilà, c'est un tout.
Voilà, donc en même temps, c'est encore mieux.
Ouais, exactement.
Alors tout à l'heure, tu disais que... soit tu t'inspirais de personnes réelles ou tu inventais le personnage. Dans ton dernier roman, ce personnage était venu comment, le personnage principal ?
En fait, j'ai plusieurs personnages qui sont très importants, mais effectivement, Naomi, elle, va être au centre puisque c'est une sage-femme. D'abord, parce que je m'intéresse beaucoup au monde de l'enfance aussi, au monde de la santé. Et puis, j'ai fait des études de lettres, de droit, et j'ai fait psycho aussi. Et j'ai trouvé intéressant que ce personnage soit décalé par un fait terrible de guerre. Comment est-ce qu'on peut se reconstruire après avoir vécu des bombardements, après avoir vécu des choses terribles, avoir vu la mort en face ? Est-ce qu'il y a possibilité de se reconstruire ? Oui, sûrement, mais de se réparer.
La résilience, en fait.
La résilience. Et ça, c'est extrêmement difficile. Je pense que pour chacun de nous, il y a des moments terribles dans la vie. Il y a des moments où on voit la mort en face. Et ça chamboule tout. On n'est plus jamais pareil. Et non seulement on n'est plus jamais pareil, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, il n'y a peut-être rien à perdre. Alors faisons ce qu'on a vraiment envie de faire dans la vie. Réalisons nos rêves. Et ça, je pense que tant qu'on n'a pas vécu quelque chose de très dur... Eh bien, est-ce qu'on est prêt à le faire ? Est-ce qu'on est prêt à mettre en jeu sa vie si elle n'a pas déjà été mise en jeu malgré nous ? Et en temps de guerre, c'est quelque chose qui est vraiment terrible parce qu'on met sa vie en jeu, mais on met celle des gens aussi qu'on aime en jeu. Et il n'y a plus que nous, là. C'est tout un ensemble. Et ça déconstruit complètement. Donc après, il faut récupérer tous ces éclats de vie et les remettre, alors non plus dans l'ordre parce que ce n'est plus possible, mais peut-être faire quelque chose pour reconstruire un petit chemin de vie. Et c'est ce qui se passe pour Naomi. Naomi survit au bombardement, mais elle perd ce qu'elle aime et elle perd toute notion des choses et elle a l'impression qu'elle les entend encore et qu'elle veut les accompagner encore et elle ne s'en détache pas. Un peu comme nous, quand on perd quelqu'un, on pense qu'il est encore vivant à côté, enfin pas vivant, mais qu'il est encore autour de nous. C'est possible, hein. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible. Chacun ses croyances, mais pourquoi pas. Et Naomi pense qu'ils sont toujours là, donc elle va les accompagner avec des chants étonnants, un peu comme les Indiens quand ils communiquent avec l'au-delà. C'est ce que j'ai voulu montrer un petit peu dans le roman, c'est qu'il y a toujours possibilité de se réparer en essayant aussi de faire partir ceux qui devront partir et qui sont morts dans des conditions difficiles puisqu'ils n'ont pas choisi leur mort. Donc Naomi est différente, oui, et puis peut-être que c'est pour ça qu'on s'y attache beaucoup et qu'on l'aime, parce que moi j'aime dans mes romans mettre des gens différents justement, toujours en dehors du moule.
Oui, c'est sûr, parce que pour avoir eu la chance de lire d'autres romans qui précèdent celui-ci, il y a toujours soit des personnes qui sont un peu blessées par la vie.
Oui, des personnes handicapées, des personnes blessées, des personnes à la face aussi abîmée, puisqu'il y a gueule cassée, hein, sur comment on se reconstruit quand on n'a plus le visage qu'on avait avant. Alors en fait, qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes vraiment ? Est-ce que c'est notre physique ou est-ce que c'est ce que nous avons en nous ? C'est la grande question que je pose toujours dans mes romans, parce que finalement, tous ces gens qui sont abîmés par la vie ont quelque chose de plus. Ils développent autre chose. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est de voir ce qu'ils développent. Et en général, ce qu'ils développent, c'est un humanisme extraordinaire. Ou une folie, hein. Ça peut être effectivement des gens qui perdent complètement la notion des choses et qui basculent dans une folie meurtrière. C'est possible, c'est pas mon style d'écriture, je suis pas dans le thriller, mais il y en a qui écrivent très bien là-dessus, parce qu'effectivement on sait qu'il y a des décalages qui peuvent provoquer aussi l'inverse. Moi ce que je préfère, c'est ce côté plus pacifiste, on va dire.
Oui, parce qu'on en parlait avant d'allumer l'enregistreur, le pacifisme est quelque chose de très important pour toi.
Oui. Je suis dans une troupe qui s'appelle les Passeurs d'Espoir avec l'association La Courtine 17 et on vient de mettre au point un spectacle sur des lectures de textes pacifistes. Alors on a Gaston Coutet, on a Maxime Le Forestier, enfin on a énormément d'auteurs extraordinaires. On a découvert des textes fabuleux, des poèmes extraordinaires sur la guerre de 14, enfin extraordinaires et très durs sur la guerre de 14. Donc des femmes aussi, puisqu'on chante aussi la guerre des mères. Donc, la grève des mères, oh pardon, j'étais dans la... Allez, carrément, c'est la fin de journée, ben, pourquoi elles n'auraient pas fait la guerre après tout ? Ben non, justement, elles ne veulent plus faire d'enfants pour qu'on ne les envoie pas à la guerre. Donc, c'est des textes qui sont quand même très, très durs, mais qui interrogent et qui, justement, font passer des idées pacifistes. Et aujourd'hui, je crois qu'on en a vraiment... Enfin, on en a toujours eu besoin, mais on en a vraiment encore et toujours besoin. Ils sont essentiels. Malheureusement, oui, ah, oui. Oui, pour avoir travaillé avec des enfants allophones, des enfants qui venaient d'Ukraine, mais de Russie aussi, ces gamins sont complètement déstabilisés et c'est catastrophique. C'est une honte de laisser nos enfants comme ça. Donc, stop. Mais comment stopper ? Comment faire stopper tous ces grands là-haut qui tirent les ficelles ? Si on pouvait leur couper les cordes. Exactement, ça serait pas mal.
Alors, il y a une question que j'avais en tête tout à l'heure, c'était conteuse, milieu associatif qui t'occupe beaucoup, les romans, tu dors quoi ?
Ah bah je dors bien. Je dors 9 heures par nuit, cher monsieur. Ah, c'est une question d'organisation. C'est vrai que, alors je suis pas toujours très organisée, mais je vais assez vite. Mais c'est vrai que des moments, je me sens un petit peu bousculée quand même, un petit peu.
Pourtant, il y a des festivals comme aujourd'hui, donc ça fait quand même.
Ah ben, il y a les dédicaces, il y a les festivals, il y a aussi les écoles, puisque maintenant je me suis engagée à raconter des histoires dans les écoles. Puis là, je vais bientôt faire une résidence dans la Creuse. Ah, ça, c'est génial. Une résidence avec les enfants de la Courtine pour les faire travailler sur un scénario qui sera mis en dessin animé par Télé Mille Vaches. Donc, c'est un très beau projet qui se met en place, ça y est. Donc, oui, il faut aimer avoir des tas d'activités à côté. Et puis, il faut aimer la vie, tout simplement. Il faut la remplir, notre vie, parce qu'on ne vit qu'une fois. Donc, c'est génial. Quand on peut faire plein de choses, profitons-en.
C'est intéressant dans ta manière de vivre la vie. C'est souvent l'une des idées reçues qu'on a sur le moteur, ce que disaient aux organisateurs tout à l'heure. Par contre, on n'ose pas les aborder sur les salons. Il y a la timidité, puis le fait que c'est les auteurs, est-ce qu'ils vivent reclus ? Et puis en fait, ça déborde de vie.
Ah, ça déborde de vie. Ah oui. Alors c'est rigolo parce que le président de l'association où je me suis inscrite, Livrefeuille, à Aigrefeuille, très belle association de plus de 20 bénévoles, très actifs dans les contes, les histoires pour les enfants, pour les livres, pour les adultes, pour les plus jeunes aussi. On a plein d'ados qui viennent. Et au début, ils n'osaient pas trop me parler, en fait. Et je dis, mais vous savez, vous me posez plein de questions. Ah oui, mais quand même, on a un auteur avec nous. Et puis finalement, ils s'aperçoivent que les auteurs sont comme tout le monde. C'est une passion qu'on a, c'est une passion qu'on développe, on travaille aussi beaucoup. Donc c'est comme tous les gens qui se mettent à bosser le matin et qui arrêtent le soir. Les auteurs, c'est la même chose, c'est un travail. Et un travail, alors un travail passion, certes, mais quand même un travail. Donc, on est comme tout le monde. Et heureusement, d'ailleurs. On a beaucoup d'empathie. Ça, c'est sûr qu'il faut beaucoup d'empathie pour écrire. Mais
c'est... Ça ressort aussi dans tes personnages.
Oui,
c'est... Les personnages sont forts en empathie. Enfin, dans tous les romans que j'ai pu lire, c'est...
Ben, moi, j'essaye de me mettre à leur place, en fait. Je suis eux. À tel point que mon mari, des fois, a déjà été jaloux d'un de mes personnages. Parce qu'il me dit, mais attends, tu parles tout le temps de lui, il y en a marre. Non, mais nous sommes des gens habités. Les auteurs sont des gens habités. C'est vrai qu'on on est parfois un petit peu bizarre. On vit avec nos personnages en permanence. Moi, il m'arrive même de faire parler, alors en plus, je suis marionnettiste, imaginez. Moi, je fais parler des choses ou des animaux que je croise. Alors, si vous avez des gens qui sont autour de vous et que vous commencez à faire parler un oiseau ou un animal que vous croisez, les gens vous regardent bizarrement. Oui, on est un petit peu habité. On a une forme de folie, je pense aussi. Voilà, une folie, oui, merci. Une folie créatrice, c'est un peu ça. Sur les mutins de la Courtine, bien depuis je suis à l'association de la Courtine, Léopoldine, je fais des lectures, elle est toujours là aussi. Néomée, eh bien pour l'instant, elle est récente, donc elle m'accompagne absolument partout aussi. Victoire, j'en parle toujours, et Victoire, je vais dans la Creuse, je la retrouve dans chaque ville que je traverse, quand je vais balader au Buisson, je retrouve Aurélien. Vous voyez, tous mes personnages sont avec moi partout où je vais, partout où je les ai créés aussi. Oui, on a besoin de s'ancrer. Enfin, c'est moi en tous les cas, peut-être parce que je suis du taureau. J'ai du signe du taureau, peut-être que j'ai besoin de m'ancrer. Mais oui, j'aime bien qu'il y ait quand même un lieu. Après, on voyage, hein, on va jusqu'aux États-Unis. On a été à La Réunion, c'est la France, mais c'est quand même La Réunion de l'autre bout du monde. La France de l'autre bout du monde. Mais oui, j'essaye de m'ancrer dans des endroits pour justement quand même aider à construire quelque chose où les gens puissent se retrouver et se poser un petit peu, même si ça bouge pas mal. C'est important aussi. Et puis il faut quand même bouger aussi parce qu'il n'y a pas de raison. Ouais. Mais oui, bah, puis moi je viens d'arriver à Aigrefeuille hein, en Charente. Donc j'avais aussi envie de mettre en avant cette ville qui me plaît beaucoup et puis ce qui s'est passé dans la région.
Je pense que beaucoup de lecteurs, enfin, moi le premier, même si j'ai beaucoup d'histoire, j'ai découvert énormément de choses. Ça me prend un temps fou ces recherches-là.
Ah bah ça me prend 18 mois, 2 ans. C'est pour ça que je ne sors pas un livre tous les ans. Hein. Vous n'en trouverez que tous les 2 ans. Je suis désolée. Pour ceux qui aiment bien, pour ceux qui n'aiment pas, bah, tant mieux. Oh, bah, elle écrit pas souvent, ça tombe bien. Non, j'écris, j'en sors un tous les 2 ans à peu près. Et puis celui-là, Néomée, vient d'être primé par Royan. Donc j'ai trouvé ça chouette parce que c'est vrai que ça permet aussi de mettre en avant la ville. Et ça, c'est important pour les gens qui arrivent dans une ville ou même ceux qui sont originaires d'une ville, de leur amener leur culture par le roman. Je trouve que c'est passionnant et puis ça les intéresse beaucoup plus parce qu'ils rentrent dans le quotidien des personnes qui ont vécu là. Et ils retrouvent les lieux. Et il n'y a pas que le lieu et l'histoire du lieu, il y a l'histoire des gens qui vivaient dans ce lieu. Et c'est ça que...
Habiter le lieu, en fait.
Habiter le lieu. Et quand on arrive dans un village où il y a déjà un livre d'écrit, moi j'adore, quand je vais quelque part en vacances, j'achète souvent des livres de gens qui ont écrit, d'auteurs qui ont écrit sur la région ou sur la ville, pour m'imprégner un petit peu des lieux différemment.
Et puis comme tu le fais remarquer, enfin, c'est vrai, quand on habite dans un lieu, enfin, la vie quotidienne fait qu'on ne va pas forcément s'intéresser à toute l'histoire qui est locale. Et puis le roman, du coup, est une porte d'entrée.
Ouais.
Sur l'histoire du lieu qu'on habite au quotidien et qu'on ignore.
Exactement, et pour les jeunes c'est important parce que on s'aperçoit que souvent ils n'en ont rien à fiche. Le lieu où ils habitent, l'histoire, alors là ça les dépasse. Et puis on leur fait étudier ou on leur lit quelques extraits d'un livre qui a trait justement à l'endroit où ils habitent et on sent que tout de suite il y a un intérêt. Sur Léopoldine, je parle entre autres de la diamanterie de Feltin dans la Creuse. Et tous les passages qui concernent la diamanterie ont été lus aux lycéens de Feltin pour qu'ils s'approprient aussi le lieu de la diamanterie où aujourd'hui on a ouvert une forme de musée. Et c'est ça que j'aime en fait dans ce roman dit de terroir, du coup ce côté terroir du roman, c'est que pour les jeunes, ils vont aller de découverte en découverte et peut-être que par la suite ils vont respecter le lieu. Et c'est primordial. En région parisienne, on en avait beaucoup parlé avec le château des gueules cassées, parce que j'avais écrit sur les gueules cassées, en disant, faites des lectures, apprenez aux jeunes ce qu'étaient les gueules cassées pour qu'ils respectent aussi le lieu, qu'ils n'aillent pas taguer le château comme on a pu taguer là récemment le monument pacifiste de Gensiou, parce qu'ils ne savaient pas ce que ça voulait dire que ce monument pacifiste, il a été tagué. Aujourd'hui, on fait un travail de mémoire sur ce monument, Alors, je saute un peu du coq à l'âne, mais enfin, pas vraiment, puisqu'on est toujours dans les espaces bien précis, les monuments historiques. Et comme celui-ci, on est en train de travailler aussi sur un monument de la lettre à l'orphelin, ouvert aux enfants, ouvert aux jeunes. Et on commence à recevoir, on a déjà reçu pas mal de lettres qui ont été faites par des jeunes, avec des textes extraordinaires. Et on se dit que si ces jeunes s'intéressent à ce monument, c'est pas eux qui iront le taguer. Et peut-être qu'ils empêcheront justement qu'il y ait des malversations dans le village, qu'il y ait des choses qui soient dégradées, parce qu'ils connaissent ça. Et apprendre son histoire, c'est apprendre à respecter l'autre.
Ça, c'est en accord avec ce que tu disais, ça fait partie de l'humanisme.
Oui, et c'est notre message. Et on doit avoir ce message. Moi, je commence à travailler avec le mouvement pour la paix. Et sincèrement, ils ont des messages extraordinaires et il faut qu'on continue de travailler. Alors c'est un travail phénoménal, hein, parce que c'est de longue haleine, mais il faut continuer, il faut toucher nos jeunes. Et pour les toucher, eh bien, ça peut être le roman, ça peut être autre chose, mais c'est vrai que des lectures, ça aide pas mal. Et puis les faire travailler sur des sujets qui au départ ne les intéressent pas, mais c'est à nous, ben, en tant que prof, hein. Tu sais bien, ah, il faut les titiller, mais il faut aussi leur laisser un champ libre tout en les guidant. Vous avez le champ libre, vous avez votre liberté, effectivement, mais voilà, on les aide quand même, sans trop être insistant, mais de les guider de manière à ce qu'ils puissent aller là où on aimerait bien qu'ils aillent, c'est-à-dire le respect de soi et le respect des autres.
Merci encore Corinne et chers amis, toutes mes excuses pour les défauts de son. Nous avons enregistré l'interview à l'extérieur du site du festival, pensant que s'il y aurait moins de bruit, mais un léger vent s'y engouffrait dans l'enregistreur. De ce fait, je me retrouve parfois avec un son un petit peu strident et quelques effets de saturation que j'ai essayé de moduler avec mon petit logiciel pour pallier au pire, même si ce n'est pas très très satisfaisant. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Un livre des livres, un livre des livres. Bonne lecture d'ici là.